is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat till the neighbor's gonna die of fright. It's our town. Everybody scream. In this town of Halloween.
I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp.
Vous écoutez toujours le direct d'Halloween de Transistor et pour continuer de prendre votre envol avec nous, Élise vous propose le tout premier numéro de sa chronique à tire-d'aile, une exclusivité Transistor. C'est parti. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans À tire d'aile, la première émission d'ornithologie philosophique, poétique et littéraire, uniquement sur Transistor. Et pour commencer cette nouvelle émission, nous parlerons du grand oiseau de jet à la réputation de croque-mort, je veux bien sûr parler du corbeau, le funèbre oiseau noir d'Arthur Rimbaud. Si aujourd'hui il nous évoque la solitude et la mort, sachez que le corbeau n'a pas toujours souffert d'une image macabre. En effet, dans les mythologies slaves, germaines et scandinaves, les corbeaux sont les messagers des dieux. On a par exemple Ugin et Monin, pensée et mémoire en vieux norrois, qui sont deux corbeaux missionnés par Odin pour survoler les neuf mondes afin de surveiller ce qu'il s'y passe. Chez les Celtes, le corbeau a aussi la cote, car il représente Lug, maître polytechnicien des arts, l'un des dieux les plus importants du panthéon celtique. Aux corbeaux sont alors attribués la sagesse, la magie et l'intelligence. On comprend pourquoi Lug peut se traduire par lumineux ou brillant. On le rapproche de Loukos, en grec ancien, et on retrouve la racine Loug dans des toponymies comme « tiens, au hasard, Lugdunum ». Et oui, le nom ancien de notre chère ville peut si bien dire « forteresse de lumière » que « colline aux corbeaux ». Vous penserez à recaser cette info pour briller en société. Ainsi, notre oiseau des ténèbres fut un temps associé à la lumière. On retrouve ce couple étrange dans le poème de Théophile de Viau qui compare le corbeau au soleil noir. Formule oxymorique bien galvaudée, mais non pas moins intéressante pour désigner nos amis les corvidés. Et il est vrai que les corbeaux coalisent les opposés, ils incarnent aussi bien la lumière que l'obscurité, la vie que la mort. En effet, si sa légende de psychopompe est bien connue, on est moins familier de sa qualité de démiurge, que l'on retrouve plutôt dans les mythologies amérindiennes. Chez les Indiens Tlingit, par exemple, le corbeau enfante le monde et l'organise. Notre Prométhée outre-Atlantique dérobe le soleil, la lune, le feu et les étoiles à l'aigle gris pour les confier aux humains. C'est quand le corbeau vole le feu que son plumage se noircit, selon ses légendes amérindiennes. Notre corvidé peut donc aussi être le symbole de l'espoir, et si une hirondelle ne fait pas le printemps, un corbeau, lui, peut annoncer le beau temps. Quand les rayons du soleil percent les nuages, nous raconte Virgile dans les Géorgiques, alors les corbeaux resserrant leur gosier, répètent trois ou quatre fois des notes claires et souvent, dans leur niche au perché, transportés de je ne sais quelle ardeur insolite, ils jacassent entre eux dans le feuillage et se réjouissent avec la fin des pluies de revoir leur jeune progéniture et leur douni. Ce poème montre que le corbeau n'a pas toujours été associé aux saisons froides. Et après le corbeau météo, parlons du corbeau oracle. Notre grand oiseau noir est le petit favori des arts divinatoires aux grandes dames de la corneille. Écoutez cette fable d'Ésope. La corneille conçut de la jalousie contre le corbeau parce qu'il donne des présages aux hommes, qu'il leur annonce l'avenir, et pour cette raison, il est pris à témoin par eux. Aussi, voulut-elle s'arroger les mêmes privilèges. Donc, ayant vu passer des voyageurs, elle alla se percher sur un arbre et là, poussa de grands cris. À sa voix, les voyageurs se retournèrent, effrayés. Mais l'un d'eux prenant la parole dit « Allons, amis, continuons notre chemin. Ce n'est qu'une corneille, ses cris ne donnent pas de présage. » Il en est ainsi chez les hommes. Ceux qui rivalisent avec des plus forts qu'eux, non seulement ne peuvent les égaler, mais encore, ils prêtent à rire. Les fables qui mettent en scène nos amis les corvidés en dressent un portrait parfois peu flatteur. Corneille et corbeau pêchent d'orgueil. En témoigne la fable de la corneille jalouse de son cousin, celle d'Ésope, et une autre d'Ésope avec le corbeau qui voulait devenir un paon le temps d'une soirée et qui finit par se faire déplumer. Ou encore, la plus connue, celle de La Fontaine avec Maître Corbeau qui tombe sur plus malin que lui, Maître Renard. La réputation du phénix des hôtes de ces bois s'en trouve ternie. Adieu corbeau divin, bonjour charognard solitaire, c'est l'Ancien Testament qui annonce son destin de créature macabre. Dans la Genèse, Noé envoie le corbeau s'assurer de la fin du déluge. Mais celui-ci ne revient jamais, car il est trop occupé à picorer les cadavres qui flottent à la surface de l'eau. Oui, c'est un peu dégueu la jeunesse. Noé confie alors la mission à la colombe, qui revient avec le rameau d'olivier, et vous connaissez l'histoire ensuite. Oiseau blanc contre oiseau noir, le corbeau, rappelé à ses instincts charognards, perd de sa noblesse et prend sa couleur d'ébène. Restons dans la religion avec saint Augustin, qui entend dans le cri du corbeau la syllabe « crasse, crasse ». Crasse qui signifie « demain » en latin médiéval. L'auteur estime ainsi que le corbeau incite le pêcheur à procrastiner, c'est-à-dire à remettre ses actions vertueuses au lendemain. Les auteurs religieux médiévaux accordent alors une place de choix au corbeau dans le bestiaire du diable. Selon eux, il se délecte des yeux des morts et accompagne les damnés en enfer. Oui, c'est toujours un peu dégueu, mais c'est Halloween. De là viennent toutes les déclinaisons du corbeau devenu oiseau de malheur, planant au-dessus des champs de bataille fumants et des plaines enneigées. On retrouve cette figure sous la plume des poètes comme Rimbaud. Seigneur, quand froide est la prairie, quand dans les hameaux abattus, les longs angelus se sont tus, sur la nature défleurie, faites s'abattre des grands cieux, les chers corbeaux délicieux. Ou, comme le maître des ombres, Edgar Allan Poe. Dans sa nouvelle intitulée sobrement Le Corbeau, l'auteur imagine un dialogue entre un narrateur tourmenté par la disparition de sa bien-aimée et un corbeau qui est entré dans sa chambre. À toutes les affirmations de l'esselé, le corbeau répond « Nevermore, nevermore ». Jamais plus, jamais plus, pour les non-anglophones. Ce nevermore, nevermore fait tomber le narrateur dans la folie. Prophète, dis-je, être de malheur, oiseau ou démon, toujours prophète, par ce ciel tendu sur nos têtes, par ce Dieu que nous deux nous adorons, dis à cette âme chargée de douleur si, dans le paradis lointain, elle pourra embrasser une fille sainte que les anges nomment Lénore. Le corbeau dit, jamais plus. Que cette parole soit le signal de notre séparation, oiseau ou démon. Rentre dans la tempête, retourne au rivage de la nuit plutonienne. Ne laisse pas ici une seule plume noire, comme souvenir du mensonge que ton âme a proféré. Laisse ma solitude inviolée, quitte ce buste au-dessus de ma porte. Arrache ton bec de mon cœur et précipite ton spectre loin de ma porte. Et le corbeau répond encore, jamais plus, jamais plus. Poe fait de ce texte un manifeste poétique en le prenant comme illustration dans son traité de philosophie de la composition. Composé de 18 sisins en octosyllabes trochaïques acatalectiques, à vos souhaits, ce poème incarne la toute-puissance du personnage auteur, métrique maîtrisée à la perfection, symbole qui s'engendre les uns les autres et saturation de références culturelles en tout genre. Le corbeau symbolise une porte close, paraclocytirion élégiaque, pour utiliser les gros mots qui font peur du critique littéraire Christopher F.S. Malijek, et la réputation muette Nevermore fait monter en crescendo le sentiment d'absurdité ressenti par le narrateur face à l'existence. Mais chez d'autres auteurs, comme Pline et Montaigne, le corbeau est plus bavard. Dans l'histoire naturelle, Pline raconte qu'un corbeau appartenant à un cordonnier maîtrisait le langage et avait pris l'habitude de saluer les habitués du forum, les hauts dignitaires comme les commerçants. Quand l'oiseau fut sauvagement assassiné par un cordonnier concurrent, il avait trop le seum, le peuple romain lui organisa des funérailles somptueuses, presque dignes de celles d'un empereur. Montaigne, quant à lui, estime que les corbeaux sont capables d'apprendre le langage humain, ce qui prouve, selon lui, que ces oiseaux ont une intériorité semblable à la nôtre. Et il est vrai en effet que le corbeau est sans doute l'un des animaux les plus intelligents du monde vivant. Pline raconte la capacité de cet oiseau à résoudre des problèmes pour accéder à la nourriture. Le corbeau peut, par exemple, aller chercher des pierres pour faire monter le niveau de l'eau contenue dans une jatte afin d'attraper la nourriture qui flotte à sa surface. Le corbeau surmonte ainsi de véritables casse-têtes. D'ailleurs, en parlant de casse-tête, la transition est subtile, sachez, amis mathématiciens et amis logiciens, que le corbeau est un véritable paradoxe. Alors oui, j'ai déjà parlé de ses attributs contraires, lumière, obscurité, naissance, mort, mais ce n'est pas de ça dont il est question. Je veux parler du paradoxe du corbeau de Carl Gustav Hempel, qui prouve que l'induction philosophique peut heurter l'intuition. Voici comment ça fonctionne. Si l'on admet la loi de la contraposition, dire que tous les corbeaux sont noirs admet cet équivalent. Tout objet non noir n'est pas un corbeau. Ainsi, si l'on veut vérifier que tous les corbeaux sont noirs, on peut soit, logique, aller dehors pour observer les corbeaux et vérifier que tous les corbeaux sont bien noirs, ou alors, selon cette loi de la contraposition, on peut vérifier que tous les objets non noirs que l'on observe ne sont pas des corbeaux. Ces deux méthodes sont logiquement équivalentes, bien que la deuxième soit contre-intuitive, car on aboutit à un paradoxe. voir une souris blanche revient à confirmer que tous les corbeaux sont noirs. Hempel part aussi de cette expérience de pensée comme du paradoxe de l'ornithologie en chambre, car dans cet exemple, l'ornithologue n'est pas contraint de sortir de sa chambre pour observer les corbeaux. La simple observation d'objets non noirs présents autour de lui, sa table, son livre, peu importe, est censée lui confirmer son point. Tous les corbeaux sont noirs. Pour ne pas en rester à de l'ornithologie en chambre, je vous invite à lever le nez et à tendre l'oreille pour percevoir le bruissement d'ailes onyx et le croassement grave de notre cher corbeau. Peut-être qu'il vous inspirera, vous aussi. Et voilà, c'était le premier épisode d'Attire d'ailes. Merci pour votre écoute et à bientôt.